Je vais vous parler de la grande distribution. La grande distribution, vous la connaissez, vous savez ce que c'est, les hypermarchés, les supermarchés. C'est donc pas tout à fait de la grande distribution dont je vais vous parler, mais plutôt de l'envers du décor, de ce que l'on trouve quand on soulève le rideau et qu'on va voir un petit peu dans l'arrière-boutique de ces hypermarchés qu'est-ce qui se passe. C'est ce qu'on a appelé justement les coulisses de la grande distribution, vous allez voir pourquoi. Alors, cette grande distribution, vous savez sans doute qu'en France, on est les champions. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant d'hypermarchés, de supermarchés. Il n'y en a pas un seul, même aux États-Unis. Et il faut essayer de comprendre comment cette grande distribution est née, justement, dans notre pays. Un pays, d'abord, qui était caractérisé par un commerce de proximité assez important. Et il faut se rappeler que cette grande distribution est donc née il y a une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années, donc, à une époque, donc au sortir de la dernière guerre, à une époque où le commerce était caractérisé par une flambée des prix, une inflation très forte, une pénurie des approvisionnements, bien sûr, comme au sortir de chaque conflit, le marché noir, une image qui collait au commerce, malgré tout, et qui a d'ailleurs une image qui a duré très longtemps pour les commerçants, 20 ans, 30 ans après. Pour bien des gens, le petit commerçant, c'est celui qui a profité sur le dos du consommateur. Et puis aussi des marges substantielles, c'est-à-dire un rapport de 1 à 4 entre le prix à la production et le prix dans le panier de la ménagère. Quand un consommateur achetait un kilo de pommes à 4 francs, il était payé 1 franc à l'époque au producteur et on disait que c'est beaucoup trop cher, qu'il y a vraiment un écart beaucoup trop important. À cette époque aussi, on disait qu'il y avait beaucoup trop d'intermédiaires, puisqu'il y avait entre 10 à 12 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. On disait que ces intermédiaires sont beaucoup trop nombreux, prennent de l'argent au passage, bien sûr, et finalement, c'est le consommateur qui se trouve pénalisé. Et c'est comme ça, donc, dans ce contexte, qu'en 1949 est né le premier supermarché, pas tout à fait le premier supermarché, d'ailleurs, le premier libre-service, le premier Leclerc. C'est pas un supermarché, c'est simplement 50 mètres carrés, vous voyez que c'est tout petit, mais c'est la première fois que le consommateur pouvait se servir lui-même sur les rayons de son épicier. Leclerc a étonné à l'époque, puisqu'il a réussi, avec son tout petit 50 mètres carrés, à casser les prix dans des proportions extraordinaires, puisqu'on trouvait des produits chez Leclerc moins chers de 20 à 70% par rapport à ses concurrents épiciers. On n'a pas compris pendant des années comment il pouvait faire avec un petit magasin, et on est venu donc de très très loin pour acheter chez Leclerc. En même temps, le consommateur n'était pas très fier. Aujourd'hui, on est tous très fiers de se promener avec des petits sacs Carrefour, Casino, Leclerc ou Auchan. Mais à l'époque, le consommateur se cachait pour acheter chez Leclerc. À tel point qu'il avait dû badigeonner les vitres de son magasin en blanc pour que de la rue, on ne voit pas ces consommateurs qui venaient acheter pauvre. On disait acheter pauvre à l'époque, donc acheter pauvre chez Leclerc. Pour autant, on est très loin chez lui. On faisait beaucoup de kilomètres, et à l'époque, les gens dépassaient évidemment moins facilement qu'aujourd'hui. Et on venait donc faire ces emplettes chez Leclerc qui vraiment bradaient les prix. Et encore une fois, personne ne comprenait comment ils pouvaient faire pour casser les prix de cette façon. On a compris, mais plusieurs années, bien sûr, plus tard. Alors, ce type de commerce, évidemment, a fort bien marché. Et un petit peu partout, donc, aux quatre points cardinaux de la France, se sont installés, comme ça, des nouveaux épiciers. Donc, par région, des familles d'épiciers ont commencé à créer des libres-services, avec bien sûr des formats de plus en plus importants. Donc, par région, vous avez à l'ouest Intermarché, Leclerc, bien sûr, Système U, au nord, Cora, à l'est, pardon, Cora, au nord, Auchan, etc. Et donc, par région, on a commencé à mailler comme ça notre territoire de magasins en libre-service. Au bout d'une dizaine d'années, Leclerc a fait beaucoup de petits, puisqu'il y a déjà une cinquantaine de Leclerc un peu partout en France, surtout dans l'ouest, bien sûr, en Bretagne, où il est né, mais également en région parisienne, où il commence à s'implanter aux portes de Paris, avec encore une fois des formats de plus en plus importants. Ça reste un libre-service, ça reste encore un supermarché. Et puis, en 1963, s'installe aux portes de Paris le premier hypermarché. Là, on change complètement de format. C'est un hypermarché, comme son nom l'indique, ce qui veut dire qu'on trouve de tout. On trouve aussi bien des produits alimentaires que des produits non alimentaires. Là, c'est vraiment une grande surface, le premier hypermarché, le premier Carrefour. C'est un 2500 m². On voit que ça change complètement par rapport au petit 50 m² du premier Leclerc. On se dit que ça va tuer le petit commerce. On s'interroge beaucoup. Et quand on réfléchit, c'est ridicule, ce 2500 m² par rapport aux 52 000 m² qui est aujourd'hui prévu aux portes de Paris et Aubervilliers, et par rapport surtout aux 115 000 m² que planifie Cora à la frontière belge, côté belge, mais donc à quelques kilomètres de la frontière française. Malgré tout, ce 2500 m² fait des ravages, le commerce commence à évidemment se sentir un petit peu menacé, et puis là encore, on vient très très loin pour acheter chez Carrefour, à tel point qu'on doit mettre au bout de 2 heures des vigiles à l'entrée pour empêcher les consommateurs de rentrer, et qu'au bout de 2 heures, là encore, les stations-service, les comptes sont vides, et que donc on doit fermer, puisqu'il n'y a plus d'essence dans la station. Ce type de commerce marche très bien, il permet de baisser un petit peu les prix, et donc on commence à installer comme ça des hyper, des super partout, encore une fois, aux quatre points cardinaux du pays. Et tout le monde y voit beaucoup d'intérêt. Le consommateur trouve ça intéressant, puisque dans le fond, les prix sont moins chers pour lui, dans un premier temps, c'est vrai. Et donc, il y voit, lui aussi, un intérêt. Les paysans y voient aussi un intérêt. L'implantation de ce type de commerce, donc ce 2500 m², ces hypermarchés, permet aux consommateurs de trouver des prix moins chers, dans un premier temps, ça c'est vrai, et puis permet aussi au monde agricole, d'un seul coup, d'avoir des débouchés importants. Au lieu de livrer à des petits commerçants deux ou trois cagettes de tomates, d'abricots ou autres, d'un seul coup, ces paysans se retrouvent avec, en face d'eux, des clients qui achètent des palettes entières, pour ne pas dire des panneaux entiers. Et donc, ils y voient un intérêt assez intéressant pour eux. Ensuite, côté industriel, là aussi, le monde de l'entreprise voit dans ces grandes surfaces un débouché important, puisqu'encore une fois, quand on vend des bouteilles de pastis à des petits commerçants, on en vend 5, on en vend 6, on en vend 12, et d'un seul coup, là encore, il y a des clients qui achètent des palettes entières, des camions entiers, etc. Tout le monde est donc parfaitement content, du consommateur au producteur jusqu'à l'industriel, tout le monde trouve vraiment que ce type de commerce est tout à fait profitable pour chacun d'entre nous. Ces commerçants font des actes de commerce comme l'homme en fait depuis qu'il commerce, c'est-à-dire qu'ils achètent des produits, ils appliquent une marge, ils nous les revendent, et donc jusque-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça veut dire qu'ils jouent beaucoup, bien sûr, sur les quantités, ils essayent d'obtenir des rabais très importants auprès de leurs fournisseurs, ces rabais nous répercutent à nous, consommateurs, et donc sur la masse, sur le volume, ils se rattrapent en faisant, bien sûr, des bénéfices confortables par rapport au volume concerné. Ça veut dire en clair que quand vous, consommateurs, vous achetez un produit 100, il a été acheté 90 au fournisseur, il y a donc une marge de 10, marge qui n'est pas très importante et qui permet aux grands distributeurs de dire, eh bien, on n'est pas cher, parce que vous voyez bien, sur un prix de 100, on ne prend que 10, c'est pas beaucoup, et donc ça nous permet, il faut bien aussi qu'on vive, qu'on puisse payer nos salariés, etc. Et jusque-là, je veux dire, c'est vrai que cette grande distribution, dans un premier temps, n'a pas été très chère,